France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Boris Becker ou le revers de la médaille. Le 28 avril 2022, l'ex-star du tennis allemand est condamné à 2 ans et demi de prison ferme par la justice anglaise qui lui reproche d'avoir caché 3 millions de livres sterling à ses créanciers. Il aurait dissimulé une partie de son patrimoine, transféré de l'argent de façon illégale et oublié de régler des centaines de factures tout en menant la grande vie. La flamme, quoi. Mais comment le sportif le plus adulé d'Allemagne a-t-il pu en arriver là ? Comment comprendre qu'avec 49 victoires au compteur, dont 6 en grand chelem, il ait accumulé autant de dettes ? À la fin des années 90, et après 15 ans d'exploits sportifs, sa fortune était estimée à 100 millions d'euros. De quoi perdre la tête ? Sans doute. Car l'homme a tout, le talent, l'amour et le train de vie qui va avec. Une vie de nabab, à fond la caisse, qui se heurte à des investissements hasardeux et inconséquents. Comme si l'homme d'affaires qu'il était devenu était resté un adolescent. Une histoire qui pose plus globalement la question de la reconversion des sportifs de haut niveau, parfois réussis, parfois ratés, quelquefois dramatiques. C'est le fameux revers de la médaille. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Javériac-Baudin, ancienne championne du tennis de table dans les années 80, désormais sociologue, maîtresse de conférences à l'université Rennes 2. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La camisette à Saint-Léon.
Des églises, des marchés folkloriques et du soleil toute l'année, bienvenue à Majorque. L'air y est doux. Et l'envie d'y acquérir une villa très forte. Ou, pourquoi pas, une grande propriété, une finca, comme on dit ici. Mais est-ce bien raisonnable ? Nous sommes en 1996, et le tennisman Boris Becker aimerait se faire plaisir. Il vient de remporter l'Open d'Australie, son 6e titre du Grand Chelem, après un superbe match contre l'Américain Chang. Une victoire inespérée, après des dizaines de tournois jugés décevants. En conséquence, alors qu'on commençait à le traiter de has-been, voilà qu'il reprend espoir. Sa femme également, comme l'explique la journaliste Sophie Tutkovic sur France Inter.
Chercher la femme c'est Barbara Becker. Quand elle a rencontré son mari, il n'était plus numéro un mondial, il avait entamé une descente que l'on pensait irréversible vers les profondeurs du classement. Derrière le retour de Becker, il y a l'amour, mais il y a aussi l'amour propre. Becker est un joueur hors norme, un combattant hors pair et un homme hors du commun. Il ne supportait pas que l'on puisse le ranger, lui, à 28 ans, au rayon des dinosaures, ce qui nous ont fait vibrer mais qui ferait bien arrêter avant de livrer le combat de trop. Grâce à cette victoire qu'il n'attendait plus, Becker est heureux comme un gamin, mais il reste lucide. « Je suis, dit-il, à l'automne de ma carrière, je devrais me reposer, mais en fait, je crois que j'ai encore en moi la possibilité de remporter quelques grandes victoires. Parmi celles-ci, il y a bien sûr un titre à Roland-Garros. Becker a conclu dans un sourire. Évidemment, j'en rêve. »
Bien sûr qu'il en rêve, même si, depuis toujours, la terre battue parisienne se refuse à lui. Il l'avoue lui-même, « Je n'ai plus ce qu'il faut pour être un champion. Je n'ai plus la force de jouer à fond durant 2 semaines. » Il n'a que 30 ans, mais tous le savent, sa flamboyante carrière est derrière lui. Dans ces conditions, est-ce vraiment le moment d'acquérir cette finca, estimée à 6 millions d'euros ? Sans doute pas. Mais elle est si belle, cette maison, qui propose tout de même 10 chambres, 10 salles de bain, une piscine de 20 mètres de longueur. L'histoire ne précise pas la largeur, on s'en mettra. Et 2 terrains de tennis, le tout sur un espace de 3 hectares bordé d'orangers. Il pourra s'y entraîner, jouer dans la piscine avec son fils, faire la fête avec ses amis. Il aime bien la fête. Alors, va pour la finca. Il contacte son ami, le milliardaire suisse Hans-Dieter Kleven, qui est à la tête de l'équipementier sportif Völk et du groupe de distribution Métro. Bien entendu, Kleven est OK pour lui avancer la somme. Ils se connaissent depuis si longtemps. Et Boris est une telle star. Une star qui partage déjà sa vie entre Miami, Munich et Monaco. Boris aime les villes en M. Et à ceux qui l'interrogent, il a pris pour habitude de répondre qu'il a la bougeotte. Certes, mais pas seulement. En vérité, c'est surtout qu'il fuit le fisc allemand. Car rien ne semble calmer ses redoutables agents. Et en cette fin des années 90, C'est peu dire que Boris Becker est dans le viseur.
Là, c'est parce qu'il qualifie d'acharnement fiscal le grand champion allemand de tennis Boris Becker quitte définitivement, semble-t-il, son pays pour s'installer en Floride. Vous voyez arriver là, justement aux États-Unis. Il proteste ainsi contre une perquisition d'agents du fisc à son domicile. Même la chambre de son fils avait été fouillée. On n'avait rien trouvé, mais il s'est senti persécuté et il s'est rendu à Miami. Il va habiter dans cet immeuble. Tout va bien tout de même pour Boris Becker.
Tout va bien, oui, puisque les millions coulent à flot. En 12 ans, ses victoires lui ont permis d'empocher pas moins de 25 millions de dollars, auxquels s'ajoutent ses contrats publicitaires qui font grimper sa fortune à plus de 100 millions. En somme, en ces années 90, et alors que sa carrière tangue, il est l'un des sportifs les plus riches de la planète tennis, qui en compte beaucoup, des riches. Reste à pérenniser ce magot issu d'une success story qui débute en 1985 sur le gazon de Wimbledon. Habitué à des finales menées entre Américains et Scandinaves, le public découvre un jeune Allemand de 17 ans aux mensurations impeccables, aux cheveux blonds et au regard d'acier. Match après match, il déploie un jeu d'une redoutable efficacité qui lui permet d'atteindre la finale du tournoi britannique le plus prestigieux du circuit. Et c'est parti pour la légende.
Voici le phénomène. Voici ses parents. Et voici son premier grand trophée, le plus beau. À 17 ans, Becker entre dans la légende du tennis. Le jeune Allemand sait déjà tout faire, servir le plomb. 21 ace aujourd'hui. Se battre et courir sur tout le court et conclure en se matchant. Bien retourner des services canons et réussir des passing shots au millimètre.
On l'applaudit, oui, car on admire ses aces à 200 km/h et ses secondes balles tout aussi difficiles à négocier, ce qui fait de lui un joueur très moderne. En fond de court, au filet, peu importe, son jeu est redoutable. Ce jour-là, face à lui, l'Américain Curran, pourtant vainqueur de Connors et de McEnroe, semble désarmé. Comment résister à ce jeune Allemand? Ses volets sont calibrés au millimètre, ses matchs définitifs. Et ses matchs encore pires. Sans parler de ses plongeons pour rattraper toutes les balles. C'est ainsi que depuis ce 7 juillet, on parle de lui comme d'une étoile.
Bonsoir, une étoile est née. Boris Becker, vainqueur du tournoi de tennis de Wimbledon, l'Allemand de l'Ouest a battu en 4-7. L'Américain Kevin Curran à l'issue d'un très beau match et fait ainsi une entrée fracassante dans le club très fermé des meilleurs. McEnroe peut trembler. Becker a tous les atouts pour le défi. Un bon service, un bon retour, un calme olympien et surtout la jeunesse. Il n'a que 17 ans.
Un an plus tôt, personne ne connaissait Boris Becker. Il n'était qu'un gamin de 16 ans qui prenait le bus pour se rendre au lycée, non loin de sa ville natale, Leimen, une commune du Bade-Württemberg. Or, derrière son père, qui l'encourage, se tiennent deux managers, Günther Bosch et Jan Tiriac, l'ancien joueur de tennis roumain. Et ils perçoivent bien le potentiel du jeune homme. Quelques mois plus tard, voilà en effet qu'il devient une star. À l'issue du tournoi, un surnom lui est même trouvé, ce sera Boum Boum, au regard de ses 21 aces servis le jour de la finale. En Angleterre, certains tentent bien de le nommer Blitzkrieg, mais sans succès, faute de goût. En tout cas, l'Allemagne, qui n'est pas encore réunifiée, le voit comme un héros, et plus encore. Michel Meyer, correspondant d'Antenne 2 en Allemagne, en témoigne.
Du jamais vu sur les écrans de la très rigoureuse télévision ouest-allemande. Boris Becker l'a contraint hier soir à faire l'ouverture du journal télévisé de 20h avec un titre sportif. Autre exploit, hier après-midi, dans toute l'Allemagne, Boris Becker a vidé les rues, comme ici dans sa petite ville natale de Leimen, près de Heidelberg. Ici, jusqu'en dernière minute, tout le monde a tremblé à côté d'un gros bretzel à ses initiales pour le gamin au nerf d'acier et au service canon de Wimbledon. L'Allemagne a une nouvelle idole, un as avec deux S selon des titres dithyrambiques où l'on évoque une tornade blonde, une comète blanche. En noir et blanc, une véritable inflation de superlatifs dans la presse, pour un jeune champion qui est devenu en quelques heures une sorte de Beckenbauer du tennis allemand. Reste une question, dans le corps des articles plus que dans les gros titres, aura-t-il la ressource de répondre aux espoirs et attentes désormais liés à son nom ?
C'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger. Comment ce jeune-là va-t-il gérer cette célébrité ? Pas moins de 400 photos de lui paraissent en une semaine. Les journalistes le comparent au plus grand, comme Max Schmeling, qui a donné à l'Allemagne son premier titre de champion du monde de boxe dans les années 30. Mais Boris veut fuir, vivre incognito. Alors, il prend le premier vol pour l'île Maurice. Une bonne idée ? Non. Il le reconnaîtra des années plus tard, déclarant au journal britannique The Guardian « Quand je suis arrivé, ils avaient encadré un poster à mon effigie et la télévision m'attendait. C'est là que j'ai compris que je ne pourrais jamais m'enfuir. » De son côté, le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung écrit « Désormais, Boris doit être tout, tout le temps. Le triomphateur, l'enfant prodige, le prince charmant, le briseur de cœur. » Il doit être là tout le temps et pour tout le monde, pour son entraîneur, son manager, ses sponsors et pour son peuple. La messe est dite. En cette fin d'année 85, le nom Becker devient business dans la RFA tout entière. Une aubaine pour les vendeurs de t-shirts et de raquettes. Illustration avec ce reportage diffusé sur Antenne 2.
3000 francs, c'est le prix de ce billet vendu au marché noir pour assister à la finale de la Coupe Davis. L'objet d'une telle folie, c'est lui, Boris Becker, l'idole du tennis allemand. Tout le monde se l'arrache. Thiriac, son entraîneur, vient de lui décrocher un contrat de 13 millions de francs avec Philips. Véritable Becker mania depuis sa victoire à Wimbledon. Ce playboy rouquin fait la une de tous les magazines allemands. Avec ce numéro de téléphone, vous pouvez appeler pour adhérer à son fan club. Toutes les jeunes filles d'Outre-Rhin tombent amoureuses de lui. Il reçoit quotidiennement un abondant courrier d'admiratrices, plus de 60 000 lettres depuis le mois de juillet. Les photographes ne cessent de le traquer dans l'espoir de le figer au bras d'une pulpeuse petite amie. Pour les fabricants, c'est l'aubaine, Becker se vend bien, raquettes, bandeaux, t-shirts, porte son nom ou son effigie. Boum boum, superstar. Boum boum fait rêver l'Allemagne. Boum boum fait craquer les cœurs.
Pris dans cette époque confite du chauffe et des tabloïdes, Becker s'en remet à son manager, Jan Thiriac, pour gérer sa carrière. Et pour piloter sa fortune aussi. Ce dernier déclare « On va pouvoir ajouter un zéro à chaque contrat publicitaire de Boris. Paris, c'est la bonne affaire. » Et il commence par négocier chaque interview à 400 000 francs de l'heure, soit 60 000 de nos euros d'aujourd'hui. Difficile alors de ne pas perdre la tête. Becker commence à fréquenter la Jet Set, s'offre une Porsche 959 dont il aime beaucoup parler, et suit les recommandations de Thiriac, qui lui conseille de déménager.
Becker a pris aujourd'hui possession de son pied-à-terre au paradis fiscal où s'agglutinent les vedettes exilées du sport. On y trouve les pilotes Patrese, Piquet ou Cheever, les tennismen Lendl, Wilander et avant, le grand Björn Borg. Décidément, tout va très vite pour Becker qui ne reviendra chez lui en Allemagne que mercredi, avant de parcourir le monde et de continuer son ascension.
Cette ascension prend forme l'année suivante. Boris écrase le redoutable et revêche Ivan Lendl, apôtre discipliné d'un tennis académique, et se hisse à la deuxième place du classement ATP, juste derrière le joueur tchèque et bientôt américain. Dans la foulée, il fête ses 18 ans, enchaîne les virées en boîte de nuit, accepte l'invitation du chancelier Helmut Kohl et rencontre le pape Jean-Paul II qui le bénit. Dans ces conditions, comment rester calme sur les cours de tennis ? Car il y a le rythme infernal des circuits, les avions, le stress, les décalages horaires, la pression qui ne retombe jamais. C'est le lot des stars qui ont tout fait pour devenir stars et qui n'aiment rien tant que se plaindre de leur vie terrible et affreuse. Jusqu'à vouloir prendre des somnifères pour Boris Becker. C'est le médecin de l'équipe allemande de Coupe Davis qui les lui a prescrit. Des médicaments qu'il arrose de bière ou de whisky, c'est plus festif. Sans parler des antidouleurs qui calment ses chevilles. Et le cercle vicieux s'installe. Plus il gagne, moins il veut décevoir. Dans son autobiographie titrée « Sans filet », parue en 2004 chez Michel Lafon, il raconte « Je ne pouvais plus dormir, mon esprit ne s'arrêtait pas ». Des aveux qu'il réitère ici, sur France 3.
Dans ces cas-là, vous avez peur de ne pas arriver à enchaîner les performances. Si vous perdez, on vous critique et vous n'avez plus qu'à disparaître. Moi, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai trouvé des moyens pour surpasser ma peur. J'ai pris ces somnifères pour dormir, mais à force, vous vous habituez à votre dose habituelle. Alors, vous avez besoin d'en renforcer les effets. Vous prenez de l'alcool avec et vous réussissez à dormir.
Une addiction qui le fait craquer en plein Wimbledon, tournoi qu'il a déjà gagné 3 fois, où il est une star. Mais en cet été 90, la finale l'oppose au Suédois Stefan Edberg. Les deux ont sensiblement le même âge et tous deux sont adeptes du service volley. En outre, ils se connaissent bien, ils ont souvent joué ensemble, ou l'un contre l'autre. Est-ce la raison pour laquelle Becker avale de nouveaux somnifères à quelques heures du match? En tout cas, c'est passablement groggy qu'il entre sur le court central mythique de Wimbledon et qu'il subit 2 sets épouvantables avant de se reprendre sur les 2 suivants, puis de s'incliner au 5e et de reconnaître que le Suédois était plus vif que lui, tout simplement. Un Suédois effectivement brillantissime, au toucher de balle si délicat qu'on eût dit que pour lui la balle de tennis était en cristal. Mais assiste-t-on pour autant au début du déclin pour Boris Becker? Non. Tout juste une première alerte qui lui permet de prendre conscience de sa dépendance et de se soigner. Déjà, sa carrière tangue, mais l'année suivante, voilà qu'il remonte la pente et tient tête la 2e place au classement ATP. 12 semaines, même premier pendant 12 semaines, devenant l'un des champions les plus riches du monde. Un atout qui, paradoxalement, va se retourner contre lui. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Boris Becker, le revers de la médaille.
Affaires Sensibles.
That's it. Becker is the new champion. And a dance of jubilation for Boris Becker, who's going to leave this stadium to go.
Fabrice Drouel.
Automne 1991. Toujours entre deux tournois, Boris Becker savoure sa gloire ainsi que son succès auprès des femmes. D'après les dires de son entraîneur, Günther Bosch, où qu'il aille, elle l'attendait devant son hôtel. Mais ce n'est pas une fan qui retient son attention, non. C'est une mannequin de son âge, la jeune métisse Barbara Feltus. Un an plus tard, les voilà qui posent nues en une du magazine Stern, façon United Colors of Benetton, symbole d'une Allemagne heureuse et multiculturelle. Six mois plus tard, ils se marient et accueillent leur premier enfant. Plus que jamais, l'Allemagne vénère Becker. Les années passent et porté par son image de bon père de famille, Boris prépare sa reconversion prévue pour l'an 2000. Car enfin, que deviendra-t-il à l'issue de sa carrière? Coach? Journaliste sportif? Non, trop banal. Lui, c'est le business qui l'attire. Alors il investit, comme l'explique Anne Vidali dans le JDD.
Quand il fait ses adieux au tennis à Wimbledon, en juillet 1999, il est l'heureux propriétaire de trois concessions Mercedes sur les bords de la Baltique, d'une kyrielle de contrats publicitaires, d'une grande maison dans la banlieue chic de Munich, d'une finca de 3000 m² à Majorque et d'un appartement à Fisher Island, oasis de luxe à quelques brassées de Miami. Trois ans plus tôt, il aurait même failli s'offrir le titre de Lord of Wimbledon, mis aux enchères par le frère de Lady Di.
Barbara, enceinte de leur deuxième enfant, Becker tient à être vue comme un adulte respectable. Mais l'est-il vraiment? Une fois de plus, c'est à Wimbledon que tout va changer. Sur place, l'ambiance est fébrile, car il a annoncé que ce sera le dernier tournoi de sa vie. Alors, dans les tribunes, ses supporters brandissent une affiche sur laquelle on peut lire « Un Wimbledon sans Boris, c'est comme le sexe sans orgasme ». Becker tente de garder son calme. C'est alors que Barbara, enceinte de 8 mois, quitte la tribune pour se rendre à la clinique. La naissance est prématurée, 8 mois, mais elle se passe bien. C'est ensuite que tout bascule, tandis qu'il dîne au Nobu, un restaurant gastronomique japonais. À quoi pense-t-il lorsque son regard croise celui d'une jeune Russe, là, à quelques mètres de lui? Soudain, voilà qu'il perd la tête, qu'il la rejoint. On imagine la suite. Affaire classée, oh que non. 8 mois plus tard, voilà qu'il reçoit un fax où il lit ces mots. « Cher Monsieur Becker, nous nous sommes rencontrés au restaurant Nobu. Le résultat de notre rencontre a 8 mois. » Jointe à ces deux phrases, une échographie qui lui présente sa fille et la facture. Que faire? Nier, bien sûr. Or, la jeune femme le traîne au tribunal, lequel ordonne un test de paternité qui se révèle positif. Aïe! D'autant que la justice anglaise ordonne le versement immédiat de la somme de 2 millions à la mère au titre de dédommagement, en plus d'une rente de 5 000 euros mensuels et de l'achat d'un appartement dans la capitale anglaise. Mais le pire est à venir, puisque désormais, c'est Barbara qui demande le divorce et qui le traîne en justice devant la cour de Miami. Un cauchemar pour Becker, qui réclame le huis clos et qui découvre que la première audience du procès est retransmise en direct depuis la salle 22C du tribunal sur une chaîne privée allemande. Audience à l'issue de laquelle il est condamné à verser 10 millions de dollars à Barbara, mais aussi de lui céder sa villa de Miami ainsi que la garde de ses fils. La totale, 270. Au journal d'équipe, il avouera plus tard, l'année 99 a été la pire de ma vie. Mon père est mort en avril, j'ai arrêté ma carrière en juin, puis je me suis séparé de ma femme durant l'été et ma fille légitime est née dans la foulée. Mon divorce a été une épreuve difficile. C'est un euphémisme, d'autant que son fiasco intime met l'Allemagne en émoi. À Berlin, pour le magazine Le Point, la journaliste Pascale Hugues revient sur son impact.
Le bébé illégitime de l'empereur du foot Franz Beckenbauer, les nouvelles amours du ministre de la Défense, les spéculations sur les déboires conjugaux du chancelier Schröder et du ministre des Affaires étrangères Fischer, ce ne sont que broutilles face à l'annonce qui est venue ébranler le pays à la veille de Noël, le divorce de Boris et Barbara Becker. Le magazine Bunte a fait ses 4 dernières couvertures sur l'affaire. Pour l'hebdomadaire Stern, son amplitude est similaire, dans la conscience collective allemande, à la mort de la princesse Diana. Becker incarnait l'image d'un garçon de la province allemande qui réussissait bien. Son mariage avec la fille d'un photographe branché de la jet-set munichoise était le reflet d'une Allemagne positive. Tous deux insufflaient un sentiment de fierté nationale dont le pays a longtemps été privé.
En somme, l'éclatement de sa famille abîme le rêve allemand. Que de déception. D'autant qu'en pleine tempête conjugale, c'est désormais le fisc qui s'intéresse à lui. Il lui reproche d'avoir oublié de déclarer 18 millions d'euros depuis 1988 et, en conséquence, les lui réclame. Craignant un nouveau procès, qu'il perdrait à coup sûr, un accord est trouvé, dans lequel Becker accepte d'être condamné à 2 ans de prison avec sursis et de verser 6 millions au fisc au lieu des 18 demandés. Voilà, ça c'est fait. Mais dans la foulée, le vent se met à tourner chez les sponsors. Le plus important d'entre eux, AOL, préfère ne pas renouveler son contrat. Comprenez qu'un homme qui ne paye pas ses impôts et qui trompe sa femme, ça fait mauvais genre. Mais sur le terrain, comme dans la vie, Becker mise sur le fait qu'un retour est toujours possible. Est-ce pour conjurer son stress ? Voilà qu'une frénésie d'investissement le pousse à miser sur des start-up, naissance d'Internet oblige. Mais hélas, ses choix manquent de discernement. Les sites Sportgate ou New Food, dans lesquels il a investi, font rapidement faillite. En réaction, il crée une société de conseil, cofonde la branche tennis de l'équipementier sportif Völk et prête son image au site PokerStars. Et ce n'est pas tout, puisque parallèlement, il investit dans une entreprise pétrolière au Nigeria, tout en jouant les commentateurs sportifs pour la BBC. Invité durant le tournoi de Roland-Garros à l'occasion de la parution de son autobiographie, le voilà qui donne le change.
Le futur, ça commence aujourd'hui. Je ne pense pas à ce qui va se passer dans 5 ans. Je ne vis pas dans le passé, en tout cas. Je suis très occupée. Je fais beaucoup de choses différentes. J'organise un tournoi à Hambourg que Federer a gagné la semaine dernière. J'ai également un talk show. Je suis journaliste aussi. Je fais du sport. Et je me suis occupée du championnat des poids lourds la semaine dernière. Je ne m'occupe pas seulement de ce qui s'est passé à la télévision, mais ce qui se passe avant et après le combat. Et c'est ça la différence entre gagner et perdre.
Il fait de son mieux, certes, mais force est de constater qu'il continue de flamber alors que sa fortune a fondu moitié. Une virée en jet à 50 000 euros le décollage ? Pourquoi pas ? Un séjour en famille dans un palace de Miami à 1 million de dollars la semaine ? Allez. Mais étonnamment, lorsqu'il passe à Mallorca, il préfère toujours séjourner à l'hôtel plutôt que dans sa finca, sa maison. La vérité, c'est qu'il n'y met plus jamais les pieds. Elle lui rappelle trop son passé. La revendre, cette maison, ce serait mettre le nez dans ses dettes, puisqu'il n'a jamais payé le personnel. Avec les arriérés, il doit quelque chose comme 300 000 euros à la société de jardinage et 50 000 de taxes de poubelle. Alors, pour oublier ses déboires, rien de mieux que de sillonner le monde. Et tant pis si certains de ces projets ne voient jamais le jour, comme la Boris Becker TV ou la Boris Becker Tower de Dubaï. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à se rendre à Dubaï, justement.
Un feu d'artifice tellement grandiose qu'on pouvait le voir de l'espace. 7 fois plus grand que celui de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. C'est en tout cas ce que garantissaient les organisateurs. Il fallait au moins ça pour inaugurer l'hôtel de luxe Atlantis, situé au cœur de cette île artificielle en forme de palmier qui n'existait pas il y a encore 5 ans. Dubaï a le goût de la démesure et du spectacle. La fête a coûté 20 millions de dollars. Et pour y être invité, il fallait être riche ou célèbre. Robert De Niro est venu avec sa femme. L'actrice Charlize Theron côtoie l'ancien champion de tennis Boris Becker et la chanteuse Kylie Minogue assure le concert.
L'aquarium est vraiment hallucinant.
Est-ce lors d'une de ces fêtes qu'il rencontre une jeune mannequin néerlandaise ? Possible. En tout cas, il l'épouse en juin 2009 à Saint-Moritz, après avoir cédé les droits de la noce à une chaîne de télé allemande. Il n'y a pas petit profit. Le mariage civil a lieu au musée Sigantini, la cérémonie religieuse à la chapelle Regina Passis et la soirée au Badruts Palace, qui promet à ses 200 invités un service légendaire. En vérité, pour Becker, une fuite en avant. 4 ans plus tard, le voilà qui réapparaît dans les médias, avec une nouvelle autobiographie intitulée cette fois « La vie n'est pas un jeu ». non traduite en France. Vie qu'il qualifie de « striptease de l'âme », tout comme le livre. Il y assure en avoir fini avec les dérapages. Certes, il coach la nouvelle star du tennis, Novak Djokovic, qui mène à 6 titres du Grand Chelem, ce n'est pas rien. Et puis il semble vivre sereinement avec sa femme et leur fils, le petit Amadeus. Mais les dettes de l'ancien Mozart du tennis sont si colossales. Désormais, c'est 3 foyers qu'il doit entretenir à travers le monde, 4 enfants, sans compter leurs écrasants frais de scolarité, et sans compter ses dettes, sur lesquelles les médias lèvent peu à peu le voile, comme ici le magazine L'Équipe, qui s'inquiète pour lui.
L'étau se resserre. Il s'enferme dans une spirale de crédit parfois démentielle, à plus de 25% sur un an. Il doit quitter le cottage qu'il habitait à Wimbledon à 22 000 euros de loyer mensuel et qu'il a laissé là encore avec des notes de jardinier non payées. Il vit aujourd'hui quelques centaines de mètres plus loin, dans la maison d'un ami. Avec quel revenu ? La rétribution d'apparition aux courses de chevaux de Baden-Baden ou sur de grands shows télévisuels est de moins en moins rétribuée. Déçu de son enfant chéri, l'Allemagne se repaît de ses émissions où Becker se prête à toutes sortes de demandes avilissantes.
De plus en plus, son entourage s'interroge. Jusqu'où Boris dérivera-t-il ? Mais le point de bascule s'appelle Finca, la maison à Majorque. Cela fait 20 ans qu'il n'y règle aucune facture. Il fait comme un blocage, genre phobique administratif. 20 ans que sur place, l'agence qui emploie son personnel le relance. Jusqu'à ce qu'elle craque et décide de l'attaquer en justice. Lui, Becker, l'ex numéro 1 mondial, pour manœuvre d'intimidation et salaires impayés. Le tribunal est choisi, ce sera celui de Londres, là où il vit en famille. C'est ainsi qu'à l'été 2016, la juge Christine Doré se penche sur son dossier et le déclare en faillite. Excédée par la désinvolture de l'ancien champion, elle refuse le délai de 28 jours demandé pour vendre la propriété. Et elle ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, puisqu'il n'y mettait jamais les pieds. Et elle considère qu'il est grand temps que la star comprenne ses limites et les limites de la loi. En conséquence, une procédure de faillite est enclenchée, signant le dernier acte de sa descente aux enfers. Car c'est aussi le moment où son vieil ami, le milliardaire russe suisse Hans-Dieter Cleven, sort du bois pour lui réclamer ses 36 millions. C'est à lui en effet que Becker avait emprunté de quoi acheter la Finca, mais aussi la maison de ses parents à Lyman et plus récemment son appartement londonien. À court de liquidité, Becker participe à une émission de télé-réalité où il apparaît de façon bouffonne, affublé de 2 tapettes à mouches en guise d'oreillette. « On a tous nos démons », souffle son ami Henri Lecomte. Boris a les siens, mais c'est un type sensible et généreux. Et il a souffert, et il souffre encore. D'autant que sa femme décide, elle aussi, de le quitter. Car enfin, comment vivre avec un homme pareil ? Même ses amis évitent désormais de le croiser. Tous pensent, que faire s'il nous demande 2 ou 3 millions ? Sa réputation le précède, et la disgrâce est totale. Alors, pour redorer son image, il s'en remet à l'agence Celebrity Network, qui gère l'image de Paris Hilton, notamment. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? En juillet 2019, une vente aux enchères est organisée par le biais de la maison britannique Wiles Hardy. On y retrouve ses trophées, ses raquettes et ses baskets préférées. Montant final, 771 000 euros. C'est à la fois beaucoup et très peu, tant la dette de Boris Becker est abyssale. Et l'histoire prend même un tour grand guignolesque avec l'affaire du faux passeport diplomatique centrafricain. Correspondant sur ce point de Pierre Pinto, en juin 2018 sur RFI.
Tout part d'une photo publiée par Boris Becker sur Twitter le 27 avril. On y voit le champion de tennis posé avec Faustin Archange Touadéra et cette mention « Son Excellence le Président Touadéra me nommant son attaché pour les affaires culturelles, humanitaires et sportives auprès de l'Union Européenne ». L'affaire prend de l'ampleur quand le champion invoque son statut de diplomate et son éventuelle immunité face à la justice britannique. Aujourd'hui, la présidence centrafricaine dément toute nomination de Boris Becker, Albert Mokpem, porte-parole de la présidence.
Il n'existe aucun document pouvant attester que Boris Becker a été nommé à un quelconque titre, que ce soit par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Il a rencontré 10 minutes, un quart d'heure, mais voilà, beaucoup de gens rencontrent le chef de l'État, saluent le chef de l'État, demandent à faire des selfies avec le chef de l'État. Ça ne leur donne pas le droit de prétendre à quoi que ce soit.
Alors, vraie ou fausse, cette histoire de passeport diplomatique ? On ne le saura jamais. Était-ce l'idée inconséquente de l'ambassadeur centrafricain lancée au cours d'un dîner ou un vœu pieux formulé par Boris afin d'échapper à la justice britannique? À ce stade, en fait, peu importe, tant la fin semble proche. En avril 2022, l'ancien commentateur Jean-Paul Lotte déclare « La manière dont Boris a dérapé me laisse pantois. Ce que la loi aura à lui reprocher sera hélas incontestable. Mais je regrette profondément la façon dont il s'est mis dans toutes ces difficultés. C'est idiot. » C'est idiot, oui. Mais c'est aussi grave. Car le 30 avril 2022, la sentence tombe sur les écrans des télés allemandes.
Un choc en Allemagne. Boris Becker est à la une des journaux télévisés. L'icône du sport vient d'être condamnée et emprisonnée en Angleterre. Quelques heures plus tôt, c'est libre, au bras de sa compagne, que l'ancien champion de tennis se présente devant un tribunal londonien. Boris Becker y est condamné à 2 ans et demi de prison pour faillite frauduleuse, reconnu coupable d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros pour ne pas payer ses dettes, évaluées, elles, à près de 60 millions. C'est donc dans ce fourgon que Boris Becker, âgé aujourd'hui de 54 ans, a quitté le tribunal.
Partout, l'incarcération de Boris Becker sonne comme un coup de tonnerre, surtout lorsqu'on comprend, ironie du sort, qu'à l'issue de son procès, le fourgon pénitentiaire le mène vers la prison de Wandsworth, à 4 km seulement de Wimbledon, là où il avait forgé sa légende. Il y devient le matricule A2923EV. Il y découvre la philosophie stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et le détachement des valeurs nocives. Il y découvre la faim également, la solitude. Et tout cela, il le raconte dès sa remise en liberté anticipée après 8 mois de détention. Un passe-droit ? Non. Une simple procédure qui stipule que tout détenu non britannique peut être renvoyé dans son pays d'origine afin de désengorger les prisons. C'est ainsi qu'à la veille de Noël 2022, l'Allemagne rouvre les bras à son ex-enfant star, qui accepte d'emblée la demande d'interview de la chaîne de TV-SAT 1, négocier 500 000 euros, tout de même. Face caméra, le visage aminci, il raconte. Derrière les barreaux, tu n'es personne, tu es juste un numéro. Je m'en suis vite rendu compte. Personne ne m'appelait Boris. Aujourd'hui, je suis la même personne, mais je suis plus humble. À moi maintenant de saisir cette deuxième chance. Avant d'ajouter dans un sourire, vous savez, à ma libération, j'ai bu une bière, c'était la meilleure de ma vie. Je pense maintenant m'installer dans un endroit plus calme que l'Allemagne, peut-être à Dubaï ou à Miami. À force de jouer avec les lignes, ce grand champion qu'il fut a fini par tomber du mauvais côté.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Boris Becker, le revers de la médaille. Notre invitée Sophie Javériac-Baudin dans les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été une ancienne championne de tennis de table dans les années 80 et vous êtes désormais sociologue, maîtresse de conférences à l'université Rennes 2 et vous êtes invitée Escalité. Alors évidemment, le thème que porte cette histoire, comme nous venons de raconter, c'est le thème des sportifs face à la reconversion. On l'a vu dans le récit. Les malheurs de Becker viennent à la fois de ses relations amoureuses, mais aussi et surtout de la gestion de son capital. Le problème pour lui, c'est le fisc. Or, bien d'autres sportifs se font rattraper par les impôts. Yannick Noah, Lionel Messi, Alberto Tamba, le skieur italien. Mais tous ont trouvé des arrangements. Pas Becker, c'est une première. Pourquoi, à votre avis ?
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu immature quand même, hein, parce qu'il a coché toutes les cases des frasques des sportifs de haut niveau. Hein. Enfant illégitime, argent dépensé d'une manière extraordinaire, le sexe, le fisc, l'alcool, la drogue, donc... Finalement, il est finalement la quintessence de ce qu'il ne fallait pas faire quand on est sportif de haut niveau. Et pourquoi a-t-on pardonné à Noah ? Bah, par exemple, Noah, c'est a parfaitement, alors au-delà de sa carrière après de chanteur, avec son association Faites le mur, etc. Il s'est quand même complètement ouvert au public. Il a partagé. C'est quelqu'un de très très généreux. Alors que Boris Becker, il s'est enfermé sur lui-même et il s'est moqué un peu de tout le monde, en quelque sorte. Hein.
Alors, il semble qu'il est parfois difficile, voire souvent, de mettre ces stars devant la réalité, tant leur célébrité les rend hors sol. Que faire? C'est une question d'éducation dès le début, peut-être, pour ces stars, avant qu'elles ne deviennent stars mondiales?
Bah, c'est-à-dire le problème quand même de Becker, c'est qu'il a, il a gagné à 17 ans.
Mais
donc
oui.
le premier finalement joueur de cet âge-là a gagné à Wimbledon. Donc il a été bousculé par la notoriété et à ce moment-là, tout lui a été permis. Et il a eu une vie extraordinaire alors qu'il n'en avait pas la maturité. Et je dirais que ça a été bien jusqu'à ses 25 ans à peu près, puisqu'il était entouré, accompagné par Yann Thiriac, qui était un entraîneur à poigne. Et qu'il a véritablement ouvert aux affaires, mais le problème, c'est que Becker n'a pas compris ce qu'étaient les affaires, ce qu'était finalement de mener une carrière jusqu'au bout, une carrière sérieuse, parce que plus on vieillit, quand on est sportif de haut niveau, plus on a des problèmes aussi de santé, hein, le corps défaillant, les blessures. Donc là, il a quitté Yann Thiriac, puis bon, ses séparations avec ses diverses femmes font que bah il a toujours joué perso en quelque sorte. Hein. Mmh. Et à la fin, vous concluez votre récit par le fait qu'il veut se mettre au vert et il choisit Dubaï ou Miami. Mmh. Je ne sais pas s'il a vraiment compris en fait que valait mieux qu'il aille dans la Creuse.
Dans la Creuse,
j'aime beaucoup
oui.
la Creuse.
Oui, parce qu'au vert à Dubaï, c'est un peu compliqué. Oui. Vous disiez, je vous ai entendu, figurez-vous, sur notre antenne, dans le téléphone sonne, c'était en 2022, et vous disiez, on ne s'imagine pas redevenir quelqu'un d'ordinaire quand on a été une star, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à vivre normalement, transformer son niveau de vie, autant pour les salaires que pour les grands hôtels. Alors pour nous, parce que c'est des problèmes de riches quand même, pour nous ça paraît pas difficile, mais ça peut l'être.
Oui, ça peut l'être, parce que quand vous êtes athlète bon, jusqu'à 30-35 ans, vous n'avez connu que les grands hôtels, qu'une vie facile, vous vous blessez, vous allez toujours tout de suite passer une IRM, mais quand vous redevenez quelqu'un d'ordinaire, eh bien il faut se réapprendre à vivre, avoir un nouvel emploi du temps, gérer sa transformation du corps, hein. Beaucoup d'athlètes prennent énormément de poids, et donc finalement réapprendre les choses ordinaires de la vie qu'on a complètement oublié, enfin pas oublié mais pas appris, parce que ça fait 20 ans qu'on est finalement dans ce processus de haut niveau.
Et parfois ça se passe mal, d'après un rapport du syndicat britannique des joueurs de foot, 40% des joueurs sont ruinés ou en dépression au bout de 5 ans à l'issue de leur carrière. Est-ce exact? Est-ce que vous avez ces données-là également? Est-ce que ça vous surprend?
J'en ai entendu parler, mais oui, ça ne me surprend pas. Et on peut même évoquer aussi beaucoup de suicides, hein, parce que ça, on l'évoque jamais. Mais finalement, beaucoup d'athlètes à la fin de leur carrière ne retrouvent pas un sens à leur vie. Ils ont agi sur le plan, ils ont choisi cette vocation d'être sportif de haut niveau. Et puis, il faut savoir qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, il faut retrouver autre chose. Mmh. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que finalement, on s'interroge sur la santé mentale des sportifs de haut niveau, mais c'est très très récent. Et là, pour le coup, ben, ils sont beaucoup mieux accompagnés, et prendre maintenant un psychologue quand on est sportif de haut niveau n'est plus une hérésie. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, ben, on disait, ben, si tu prends un psychologue pour t'accompagner, ben, t'es pas bien dans ta tête, t'es fou, quoi. Alors que là, maintenant, c'est beaucoup plus accepté, et je crois que cette santé mentale des sportifs de haut niveau est primordiale pour continuer une carrière de très très haut niveau.
Oui, parce qu'il faut toujours rapporter ça à l'âge de ces sportifs.
Bien
quand
sûr.
Ils ont une fortune énorme, ils ont entre Becker 17 ans, et puis grosso modo 30 ans, n'est pas forcément complètement mûr à cet âge-là, surtout pour gérer une fortune aussi nombreuse. Mais vous, comment avez-vous fait d'ailleurs? Après votre carrière sportive.
Alors moi, j'ai pas été aussi haut que Boris Becker. Non, moi, quand j'ai arrêté ma carrière, moi, je voulais être antiquaire. Donc, pendant 18 ans, j'ai ouvert un magasin d'antiquités. Et pour des raisons familiales, j'ai repris mes études à 50 ans, passé une thèse, et puis finalement travaillé sur ce que je connaissait le mieux, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, et un point très très particulier qui était finalement pouvoir et vouloir se former pour préparer son après-carrière, parce que finalement, c'est pendant la carrière sportive qu'on peut continuer ou enclencher ce qu'on appelle le double projet pour préparer l'après-carrière.
Bien sûr.
Parce que quand on continue, si vous voulez, si on veut enclencher un processus de formation après la carrière, finalement, on compte plus pour les fédérations sportives, puisqu'on est sorti de la carrière. Donc, il faut profiter du poids que l'on peut avoir pendant la carrière pour préparer son après.
Et parfois, les sportifs eux-mêmes s'en occupent. Je prends l'exemple du footballeur italien Giorgio Chiellini, ancien joueur de la Juventus de Turin et de l'équipe d'Italie, qui avait monté une structure justement pour aider tous les footballeurs professionnels à reprendre des études.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Alors, je précise, parce qu'on ne l'a pas beaucoup précisé dans le récit, que le tennis de Boris Becker était un tennis magnifique, fondé sur un service, je crois, l'un des services les plus puissants qu'on avait jamais vu. Un tennisman qui montait au filet, qui plongeait, qui était très spectaculaire, probablement très aimé pour ça aussi. Il faut aussi parler quand même de ses qualités sportives. C'était vraiment un grand, Boris Becker. Même s'il n'a pas été numéro un mondial très longtemps, il l'a été quand même.
Oui, et puis je dirais que le fait qu'on l'appelle Boom Boom Becker aussi, c'était effectivement un jeu magnifique. Et par rapport au jeu du tennis actuel, je dirais c'était un tennis d'engagement, un tennis physique qui faisait exploser les foules de joie, hein, parce que c'était splendide. Hein. Alors que maintenant, on a plutôt un tennis, je dirais, mais là c'est une réflexion personnelle, un peu anesthésiant.
Alors il y a un autre levier de stress et de pression pour un sportif, c'est qu'il doit être une vitrine par rapport à son pays, y compris lorsqu'il pratique un sport individuel. C'était le cas pour Boris Becker. Est-ce que les sportifs de haut niveau doivent porter comme ça l'image nationale et peut-être contre leur gré parfois ?
Oui, alors c'est l'image du champion. Hein. En France, on a eu Zidane, on a plein hein, qui sont l'image magnifiée, magnifiante du champion. Et pour reprendre Zidane, par exemple, ben on a oublié que son coup de boule, par exemple,
ou
on oublie par exemple les affaires des frères Karabatic sur les paris sportifs. Donc on conserve l'image et c'est important, oui, pour un pays parce que c'est l'image pour nos jeunes qui veulent finalement ressembler à leurs aînés.
Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, et vu la vie qui a été celle de Boris Becker, il peut revenir, non pas au top niveau vu son âge, sur les cours de tennis, mais peut-être en tant qu'encadrant, entraîneur, est-ce qu'il a sa place encore dans le tennis ? Au-delà de la place qu'il peut avoir dans la mémoire du tennis, est-ce qu'il pourra avoir une place aujourd'hui ?
Oui, bon, il a quitté Djokovic, il a fait un parcours avec Rune. Bon, après, il faut trouver le joueur qui finalement, qui l'oublie, lui, qu'il a été très très grand champion et qu'on voit son joueur et non pas Boris Becker comme entraîneur. Ça, je pense qu'il faut qu'il apprenne l'humilité et peut-être aussi qu'il se forme parce que il a effectivement une carrière extraordinaire, ça a été un joueur qui a gagné beaucoup de titres, etc. Mais bon, être entraîneur, c'est pas que ça. C'est pas que ça.
Bien sûr. Il me reste à vous remercier, Sophie Javerliac-Baudin. Je rappelle que vous interveniez depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes, que nous remercions pour leur accueil. Merci. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Boris Becker, le revers de la médaille. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.